On va commencer Bezrat Hashem, notre... On va commencer Bezrat Hashem, notre deuxième cours, sur le chapitre 7 de Igeret HaTshuva. Dans ce chapitre 7 de Igeret HaTshuva, chapitre très intéressant, très profond, il va nous parler de ce qu'on appelle la Teshuva Tata'a. Teshuva Tata'a, littéralement, c'est en araméen, ça veut dire la Teshuva basse. La Teshuva de bas niveau. Et quand on entend la Teshuva basse, ne soyez pas étonnés par le mot et ne sous-estimez pas le mot. En vérité, ce serait bien que quand nous on fait Teshuva, on arrive à ce qu'il appelle ici la Teshuva basse. Parce qu'il y a la Teshuva de haut niveau et la Teshuva de haut niveau. Maintenant, vous savez, il y a un phénomène en français, je n'ai pas trop développé la semaine dernière, c'est pour ça que je m'arrête un peu plus dessus. Il y a un phénomène en français qui s'appelle l'autosuggestion. Est-ce que vous savez ce que c'est?
Ouais.
C'est quoi l'autosuggestion?
On se parle
jamais. Non.
Non. On te suggère des choses sans le dire.
On se suggère des choses sans le dire.
C'est un peu, c'est ça, mais c'est aussi autre chose. C'est quoi l'autosuggestion?
On te persuade de choses sans le dire.
Ou bien, on te suggère des choses qui sont fausses et que, à force de les répéter, ça devient vrai, alors qu'elles sont fausses. Exemple. Prenez l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui est beau.
Beau.
Il est beau. Mais chaque fois qu'il se regarde au miroir, il se suggère qu'il est moche. Il s'auto-suggère qu'il est moche. Donc automatiquement, à force de le répéter,
il
va croire que je suis moche. Prenez l'exemple de quelqu'un qui est riche. C'est-à-dire qu'il a les moyens de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Mais à force de se répéter dans sa tête, de se dire « je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis bon à rien, je suis, etc. » D'accord ? Eh bien, ce qu'on appelle de l'autosuggestion.
Nous, on pleure avec lui.
L'autosuggestion, ça veut dire que tu crois que tu es quelque chose alors que tu ne l'es pas. Il y a beaucoup d'exemples d'autosuggestion.
Oui, il y a beaucoup.
Vous savez qui était très fort dans ça ? Les communistes.
Ouais, exactement.
Les communistes, ils avaient un dicton chez eux qui disait « quand tu répètes un mensonge, il devient vrai, vérité. » Voilà. Ça veut dire que tu répètes un message une fois, deux fois, trois fois. Rappelez-vous la première fois... que les négationnistes parlaient. C'est quoi les négationnistes? Ceux qui disent que la Shoah n'a jamais eu lieu. Première fois, c'est tellement fou que personne ne pouvait y croire. Personne ne pouvait y croire. C'était absurde. C'était insensé. C'était incompréhensible. Et maintenant, regardez comment petit à petit... Alors au début, tu as un humoriste qui te fait ça, qui te le dit une fois, et bon voilà, on va le priver de... On va l'interdire de se produire. Bien, bon. C'est normal, c'est la bonne chose à faire. Mais tu répètes une fois, deux fois, trois fois, comment ils disent, tu répètes un mensonge, je sais qu'il devienne vérité. Ok. Alors c'est la même chose, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est que parfois, on s'auto-suggère qu'on a fait teshuva alors qu'on n'a pas fait teshuva. Ça veut dire que tu vas passer par le mois d'Eloul, tu vas passer par Rosh Hashanah, par Kippour, tu vas rentrer dans une ambiance de teshuva, et tu vas t'auto-suggérer que j'ai fait teshuva. Alors qu'en vérité, peut-être, qui pourrait passer, mais toi, t'as rien fait. C'est un peu dur ce que je suis en train de dire. Je sais que c'est un peu dur. Mais c'est un vrai problème qu'on a dans la vie de tous les jours. On se suggère beaucoup de choses. Je vous pose une question, par exemple. Parce que si je pose une question ici, je fais un tour de table, je pose une question. Je dis, est-ce que vous pensez que vous éduquez vos enfants? Qu'est-ce que vous allez répondre?
Oui.
Je pense qu'on va répondre oui.
Oui, on essaye.
Bien, on essaye.
On les éduque pas, mais on les éduque.
D'où tu sais que tu les éduques? Parce que tu penses que tu les éduques, tu te suggères que tu les éduques. D'accord? Mais c'est vrai. Tu suggères, tu dis voilà, je m'investis pour eux, je travaille pour eux, je prends du temps pour eux, pour les devoirs, pour les éduquer, etc. Bon, bien sûr, je les éduque. Mais encore une fois, où tu mets la limite entre la réalité et l'autosuggestion? La réalité, c'est ce qui se passe réellement. Et l'autosuggestion, c'est ce que tu penses vivre, alors qu'il ne l'est pas. Et la vérité, c'est que notre monde est plein de ça. Combien de fois on assiste à des situations, t'as des gens par exemple qui viennent à des cours, ou qui arrivent à des situations, ils n'ont rien compris. Mais ils vont s'auto-suggérer qu'ils ont tout compris, alors qu'ils n'ont rien compris. Et ils vont mimer, tu vois, quelqu'un qui comprend, etc., alors qu'il n'a rien compris. D'accord? Donc on vit dans le monde du mensonge. Le Zohar appelle notre monde Alma des Shikra, le monde du mensonge. Donc c'est pour ça que ce que je veux dire par là, hein, c'est que lorsque la Morazaken nous parle ici d'une teshuva de bas niveau, ne sous-estimez pas cette appellation de teshuva de bas niveau. Parce que la teshuva de bas niveau dont on parle ici, c'est une teshuva qui est d'un très très haut niveau. Alors, dans ce chapitre, il va nous donner deux techniques un chemin droit et direct pour arriver à faire teshuvah. Je ne parle pas de la teshuvah de haut niveau. La teshuvah de haut niveau, on la verra dans le chapitre suivant, c'est la teshuvah des tzadikim, etc. Je vous la souhaite. Mais avant d'arriver à la teshuvah de bas niveau, de haut niveau, on va d'abord, pardon, parler de la teshuvah de bas niveau. La teshuvah qui nous concerne à tous. Deux techniques. Deux choses. D'abord, première chose, première technique, c'est de demander pitié à Dieu. De demander l'aide de Dieu. C'est-à-dire, avant même de penser qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, et pourquoi ça va pas, la première chose qu'on doit faire, c'est de demander de l'aide à Dieu. Maintenant, on a terminé nos cours dessus la semaine dernière. A priori, c'est l'idée la plus folle qu'on puisse avoir, ça. Parce que, on avait donné cet exemple la semaine dernière. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui se fâche avec son père, qui blesse son père, et après, il n'arrive pas à se remettre avec son père, et il va voir son père, et il lui dit, papa, aide-moi à revenir vers toi. Vous êtes d'accord avec moi que c'est complètement absurde. Parce que, si je me suis fâché avec mon père, je ne vais pas aller maintenant lui demander de m'aider à revenir vers lui. Tu veux revenir, tu reviens, tu n'arrives pas à revenir, bah, tu demandes de l'aide extérieure. Eh ben non. Chez Akadosh Baruch Hu, les horaires Rachamim à Elionim demandaient la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est première chose. Bon, ça n'est pas ce manière. La deuxième chose est la plus dure. Je disais tout à l'heure que préparez-vous à prendre un peu de coups sur la tête aujourd'hui. Je vais essayer de la faire soft, mais on va prendre sur la tête. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on fait teshuva, on doit, à un moment ou un autre, affronter la réalité. Et vous savez, dans la vie, on n'aime pas affronter la réalité. C'est comme ça. On n'aime pas. Je préfère me dire que tout va bien, ou que je verrai demain, ou qu'on verra après, ou qu'en vérité tout va bien, ou que c'est pas aussi grave qu'on te le dit. On ne veut pas affronter la réalité. Et en fait, Hachem, il t'envoie des appels de phare. Mais bon, t'as pas envie de les prendre. Tu comprends, le gars, il roule à contresens. Je viens lui faire appel de phare. Non, lui, il dit non, c'est eux qui sont trompés.
Il avait comme ça sur
l'autoroute. Hein, sur l'autoroute comme ça.
J'ai eu.
Hein? Contresens.
Contresens
sur. Il y en a une fois, il roule à contresens.
Je vous rappelle.
Il était avec sa femme. Quoi? Non, mais c'est. Hein? Bah, puisque c'est moi de Hadar.
On rentre une fille, 3 ans, contresens sur l'autoroute.
Ah oui. Ou il est bourré, ou il est sûr de. Il est persuadé que tout le monde se trompe. Et en fait, il y a une fois comme ça, quelqu'un qui roule à contresens.
Contre-feu, comme ça.
Et.
C'est pas possible.
Et il entend, il est sur 107.7. Et il entend à la radio, on dit attention, il y a un fou qui roule à contresens.
C'est moi qui ai prévenu en plus.
D'accord. Et lui, il entend ça, il dit à sa femme, il dit, mais non, c'est bizarre. Il n'y a pas un fou, il y a plusieurs fous qui roulent à contresens.
Oui, je préviens, après ils m'ont arrêté, ils m'ont demandé.
Il n'y a pas qu'un fou, il y a plusieurs fous qui roulent à contresens.
Tout le monde.
Tout le monde. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, lui, il est normal et tout le monde est fou. Ah oui, parce qu'en fait, si tu as raté l'entrée, après quand tu roules, il n'y a rien. Tu peux rouler autant que tu veux, il fait noir. Bon. Donc, je disais que demander la miséricorde à Dieu, c'est une chose. La vérité, ça, on le fait le mois des loups, on le fait tout le temps, mais qui ne demande pas miséricorde à Dieu? Tout le temps, on demande pardon à Dieu. On demande à Dieu, aide-moi, je t'en prie, aide-moi, ouvre-moi les portes. Mais après, il y a un moment, vers la bête, la deuxième, c'est d'affronter la réalité. Et qui dit affronter la réalité, dit que des fois, il faut se donner des claques. Alors, on n'aime pas ce mot chez nous, c'est-à-dire qu'on se donner des claques. Alors, il y a aussi un autre mot, j'ai parlé d'autosuggestion. Il y a aussi un mot qui s'appelle l'autoflagellation. Mais ça, c'est un problème. Il faut aller consulter un psy pour ça. Ok? Certains, normalement, on n'aime pas se donner des claques. On n'aime pas. Tant que j'ai pas quelqu'un, un policier, un flic, qui vient me dire, monsieur, vous allez mal, je dis, je vais bien. Pourquoi que je me prenne la tête maintenant? Seulement, voilà. On te dit, pour faire tes chouvas, ça marche pas comme ça. Pour faire tes chouvas, à un moment ou un autre, il faut faire un bilan. Et quand on prend un bilan, il faut être prêt à affronter la réalité. Vous savez, c'est ça le secret dans les affaires. Dans les affaires, arrive le moment du bilan. Combien de fois par an on fait un bilan? Une fois par an minimum. Maintenant, t'as des gens qui, quand ils font un bilan, ils veulent faire dire au bilan ce qu'ils ont envie qu'ils disent. Ou vraiment pour les actionnaires, ou pour eux, ils veulent faire dire que ça marche et que tout va bien. Mais c'est pas ça un vrai bilan. Un vrai bilan, c'est un bilan dans lequel tu veux entendre la réalité. Et si la réalité est qu'on gagne bien, tant mieux. Si la réalité est qu'on aurait pu gagner encore mieux, eh ben, tant mieux, on fera des efforts. Et si la réalité est qu'on est en perte, eh ben, il faut le savoir. Vous allez dire, mais comment il s'est pas rendu compte qu'il est en perte? Parce que des fois, c'est tellement gros, il y a tellement de chiffres que tu te rends pas compte.
Il faut faire un audit.
Eh oui, faire un audit. Regarde, un Bivi travaille chez Page Jaune. D'accord? Une grosse boîte, très grosse boîte. Comment ils peuvent savoir s'ils gagnent ou ils perdent? Il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Parce que,
Où c'est qu'on peut
Non, mais il y a tellement. Non, pas du tout, pas du tout. C'est très compliqué à voir. Qu'est-ce que tu crois
70 millions de bénéfices malgré la PSG.
Bien sûr. Non, mais comment tu sais si on gagne ou on perd? Il y a tellement de paramètres. Comment il s'appelle le groupe américain là qui vous a racheté?
Oui, c'est un américain.
Il n'y a pas un groupe américain que vous a racheté?
Non, c'était.
Il n'y a pas une holding?
Oui, non, c'était un fonds de pension qu'ils ont racheté. Mais après, ils ont lâché.
Ils ont lâché.
Ils ont tout remis en bourse.
Ils ont tout remis en bourse, d'accord. Bon, Bekitsour, il y a tellement de paramètres à prendre en compte, donc il faut un audit. Et l'audit doit être externe. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est externe pour moi. Comment ça marche? Alors, ce qu'on va développer aujourd'hui. Vehabet est le deuxième. Donc, premièrement, première technique pour faire teshuva, c'est d'abord de demander la miséricorde d'Hachem. N'attendez pas Kippour pour ça. Aujourd'hui, vous pouvez faire. Ce soir, vous pouvez faire. Maintenant, vous pouvez faire. Maintenant. Premièrement, demander la miséricorde d'Hachem. Deuxièmement, Vehabet est le deuxième. Je suis en haut de la page 234. Levatesh ou Leachnia Klipa Vesitrara. La deuxième chose, c'est qu'il faut, pour que les choses soient acceptées et qu'elles rentrent réellement dans mon cœur, il faut briser, écraser la Klipa et les forces du mal. On va expliquer. Asher Kol Chayuta Irak Prenat Gassoud Vagbar. Quelle est l'origine des forces du mal? Les forces du mal, toute son énergie n'est que grossièreté et arrogance. Ça veut dire que les forces du mal, plus ils se sentent arrogants, et mieux c'est. Tant qu'une personne est arrogante, il ne fera pas de tchouva. Parce que dès que quelqu'un voudra lui faire une remarque, qu'est-ce qu'il dira? Il dira, mais qui tu étais pour faire une remarque?
Ouais.
Donc, tu n'écoutes pas. Maintenant, il est arrogant envers les autres, il est arrogant envers soi-même. Il sent qu'il est le maître du monde et qu'il a des comptes à rendre à personne. Je pousse volontairement le bouchon, c'est-à-dire je le pousse très loin, je suppose que c'est autour de la table, il n'y a pas de gens qui sont comme ça. Mais ça peut être parfois, voilà, ça peut être parfois ta femme qui te fait une remarque. Ça peut être parfois un collègue qui te fait une remarque. Ça peut être parfois un cousin qui fait une remarque, etc. Tu n'acceptes pas. Pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu n'acceptes pas? Deux éléments clés chez les forces du mal. Grossièreté et arrogance. Grossièreté et arrogance. Grossièreté, ça veut dire que tu perds la finesse. Il y a une finesse qui fait que tu captes certaines choses. Et plus tu deviens grossier, je ne parle pas grossier dans le vocabulaire, je parle grossier dans le sens qu'on n'est plus attentif aux détails. Plus tu deviens grossier, et moins tu captes les détails. Et moins tu te rends compte que tu es dans l'erreur. Après, les choses se passent, et tu ne te rends même pas compte où est le problème. Il n'y a pas de problème. Alors que le problème est devant toi. Vous savez, j'avais un copain à la Yeshiva qui disait comme ça. Il disait, il y a des gens, tu leur fais juste un petit mouvement de tête, ils ont compris. Ils ont compris que, bon, de se reprendre. Il y a des gens, ils comprennent pas qu'un mouvement de tête, il faut que tu commences à cligner légèrement de l'œil, il a compris. T'en as d'autres, ils ont besoin que tu clignes vraiment de l'œil pour comprendre. T'en as d'autres, il faut cligner les deux yeux pour qu'ils comprennent. T'en as d'autres, même si tu sautes devant eux avec une pancarte, ils n'ont pas compris. Je trouve que c'est une belle image. C'est-à-dire que t'as des gens, et en vérité, on est tous comme ça. Ils captent au quart de tour. Les enfants sont comme ça. Hachem nous a créés avec une sensibilité. Mais après, avec le temps, qu'est-ce qu'on fait avec sensibilité? On la brise. On devient grossier. On devient arrogant. Et une personne qui est arrogante, d'accord, elle reste arrogante jusqu'au bout, elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend pas compte, il est là en train de voir, de croire qu'il est le roi du monde, alors qu'en vérité, il est complètement fou. Il croit qu'il maîtrise, alors qu'il ne maîtrise rien du tout. Ça fait deux cours. Il y a quelqu'un qui a parlé ici. Pas dans ce cours, c'est dans le cours des jeunes. Il y a un jeune on parlait justement de ce sujet, et il y a un jeune qui m'a amené le. Alors je ne saurais pas vous dire le nom, il y a un film, je crois, qui s'appelait Scarface. Scarface, voilà.
Ouais.
Alors, bon, je ne connais pas, mais apparemment, voilà. Alors je vous dis, non, ce qui.
C'est des copains.
Hein ah, c'est quoi? C'est un italien? Bon, voilà, peu importe. Voilà. Hein
Hein
Alors.
Pacino.
Pacino.
Hein Pacino.
Et c'est pas Corleone.
Hein
C'est pas Corleone, non.
Bon, je sais pas de quoi vous parlez. Mais en tout cas, pourquoi je vous parle de ça?
C'est mafioso.
Parce que le jeune, il m'a dit comme ça. Il nous a fait. C'est un très bel exemple. Il a dit que dans ce film, apparemment, tu as une personne qui monte dans la société, c'est-à-dire qui vient de rien du tout, et qui monte, qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, et qui a vraiment de quoi gérer sa vie comme il faut, mais qui progressivement, il se prend pour le roi du monde, il se prend pour un dieu. En vérité, il se creuse sa propre tombe, et au point que jusqu'au bout, il croit qu'il maîtrise tout, alors qu'il maîtrise rien.
Parce que c'est la drogue qui lui fait croire ça.
Ah, c'est la drogue, bon, d'accord. Voilà, c'est un exemple.
Bah, oui.
D'accord. Et à la fin, il termine en. Mais ça veut dire que jusqu'au bout, il croit que je maîtrise le monde, alors qu'il maîtrise rien du tout. Qu'est-ce qu'il a tué, celui-là? L'arrogance. La grossièreté et l'arrogance. D'accord. Alors, ça, c'est évidemment, c'est, comment il s'appelle, l'acteur?
Al Pacino.
Al Pacino, d'accord. Ah. Bon, c'est un italien, d'accord.
C'est pas un juif italien, non?
Non, ok, peu importe. Je sais pas. C'est pas...
T'as aimé le film?
Non, j'ai pas... C'est un jeune, on est l'exemple. Parce que je leur explique. Non, j'essaie de leur expliquer l'idée que quand on est arrogant, ça peut nous amener à la tombe sans qu'on se rende compte. Il y en a un, il m'a dit, c'est comme dans Scarface. J'ai quoi, Scarface? Bon, alors revenons à notre histoire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici que. Une personne, plus il devient arrogant, et moins il se rend compte de son problème. Et des fois, tu as des gens comme ça. Des fois, ça, c'est très important à comprendre ça. Des fois, par exemple, des gens, ils sont en paix avec leur femme. Tu me crois que ton copain avec ta femme, qu'est-ce qui se passe? Le gars, il insulte sa femme.
Non, c'est sa femme, c'est en
d'accord? Ah, voilà. Alors, lui, mais lui, quand tu lui parles, tu lui dis, écoute, bon, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Tout va bien, etc. Il dit, mais tout va bien, moi, c'est elle qui ne comprend pas.
Voilà.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, mais je comprends qu'on peut des fois s'accrocher, mais là, des fois, ça atteint des niveaux.
Mais c'est pas arrivé, c'est
ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, hein, l'arrogance et la grossièreté poussent une personne à un point qui perd la sensibilité. La première fois que tu as insulté ta femme, tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème, tu étais mal à l'aise. Non, après, elle n'est plus mal à l'aise, c'est normal. C'est normal, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est une. Bon, voilà. D'accord. Hein? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grossièreté et l'arrogance font en sorte qu'on ne se rend plus compte. Il y a un mot dans Ayamium qui dit que celui qui est bas et grossier ne perçoit plus sa propre grossesse, sa propre grossièreté, pardon, et sa propre bassesse. Ça veut dire que, normalement, quand tu es malade, tu sens que tu es malade. Par exemple, tu as mal à la tête, tu sens que tu as mal à la tête. Tu comprends? Quelqu'un qui se blesse, Dieu préserve, par exemple, qui se fait saigner, eh ben, il voit que ça saigne. Il peut pas ignorer qu'il saigne. Mais ça, c'est une maladie, la bassesse et la grossièreté, que plus tu deviens bas et grossier, et moins tu sens que tu es bas et grossier. Et le Yetzer Hara joue de ça pour nous faire tomber. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut qu'il te fasse tomber dans la bassesse et dans la grossièreté. Parce qu'une fois que tu es dans le coup, tu ne te rends plus compte. Et c'est pour ça que des fois, tu parles à quelqu'un qui est loin de la Torah, tu essaies de lui faire comprendre qu'il est à côté de la plaque, mais il ne comprend pas de quoi tu lui parles. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il est happé par la bassesse et la grossièreté. Et plus tu tombes dans la bassesse et la grossièreté, plus tu ne te rends pas compte. Alors, évidemment, une fois que t'es dedans, mais t'es pas né dedans.
Voilà, c'est
d'accord,
ça.
Mais ça faut. Tu peux le faire au monde.
T'es pas né dedans, c'est ça que tu dis. Mmh. Ça, c'est intéressant.
Quand on le devient.
Et plus tu t'habitues,
plus tu rajoutes des voiles sur la présence d'Akadosh.
Quelle est la cause?
Plus tu rajoutes du voile sur la présence d'Akadosh dans ta conscience, plus tu t'éloignes.
Très bonne question.
Alors, c'est le chien qui mord sa queue.
Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est pour ça qu'on a précisé que la première introduction, c'est quoi? C'est quoi la première introduction?
Demander de l'aide à Kadosh Baruch
Hu. Voilà.
Mais pour demander de l'aide, tu saches que tu es embêté.
Exactement. Alors, parce qu'en vérité, la Neshama, elle t'envoie des signaux.
C'est pas possible.
Non, mais tu dis que quand plus haut.
Mais après, à un moment, ce qui se passe, c'est que tu t'en rends plus compte. Tu te rends plus compte que qu'il y a un problème. Et après, il n'y a plus de limite. C'est quoi le problème? C'est qu'après, plus tu tombes, plus de limite. C'est la réalité.
Même quand le type, il reçoit une lettre recommandée d'Akadosh Baruch.
Ah oui, il comprend pas. C'est-à-dire que jusqu'au bout. Comme dans Scarface. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il est persuadé que. Comme celui qui a double sens, quoi, qui a contresens. Il est persuadé que. Tout le monde roule à contresens et c'est moi qui roule droit.
Mais est-ce que celui-là même...
C'est la vraie folie.
Est-ce qu'il peut être excusable? C'est-à-dire qu'il a fabriqué quelque chose de violent.
Écoutez, Joseph...
Alors, mais il n'était pas né.
Vous savez, c'est
comme,
l'histoire de quelqu'un qui saute du 100e étage.
Oui.
Et bon, tout le monde s'inquiète pour lui. Alors on lui dit, alors comment vas-tu? Et là, il dépasse le 80, 70... Jusqu'ici tout va bien, il s'éclate le gars.
D'accord.
Il en chute libre, mais il s'éclate, d'accord? Jusqu'ici tout va bien. C'est-à-dire que maintenant il arrive en bas, et quand il arrive en bas, il arrive moins 1, il dit « Ah, ben je regrette !» Mais baba, c'est trop tard.
Non, mais moi la question...
C'est-à-dire qu'une fois qu'il rentre dans une chute vertigineuse, c'est trop tard.
La question c'était avant qu'il saute. Oui. La question c'était avant de sauter. Qu'est-ce qui se passe là?
Bon.
Il y a un déclic parce que... Il y a quelque chose qui...
Bah, au Hachem, qu'Hachem peut toujours nous envoyer le parachute, pour récupérer la situation.
Avant, pour nous arrêter, nous empêcher de sauter.
Après, c'est le crash.
Bah, c'est le crash qu'on peut. Ouais.
Donc, on espère ne pas arriver au crash.
Les bistres, bien sûr, tiens.
Donc. Alors, il dit comme ça. Donc, il n'y a pas de secret. Les forces du mal tirent leur énergie de l'arrogance et de la grossièreté. Et c'est pas compliqué. Regardez autour de vous. Dans le monde de la Torah, plus une personne monte dans la Torah, et plus il est humble. Tu parles avec lui, presque, tu sens que t'es plus grand que lui. Ça, il te fait sentir qu'il est tout petit. Et t'es gêné par ça. T'es gêné par cette sorte d'humilité. dans le monde de la Touma, dans le monde du show business, dans le monde, etc., plus on monte et plus on écrase les autres. On est arrogant. C'est ça, c'est ce qui... prétentieux, arrogant, grossier. Grossier. Grossier, mal élevé, arrogant. Du style, c'est qui cet imbécile qui est en face de moi? Et encore, je suis poli. Ok? Donc, Dylan de Morazaken, il n'y a pas de secret. Première méthode, première technique, demander la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Deuxième technique, il faut casser la citra hara. Il faut casser les forces du mal. Il faut casser cette arrogance. Maintenant, Michael a posé une question. Comment? On va y arriver. Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. Il faut casser. Tu ne peux pas discuter avec les forces du mal. Il faut casser. Ok?
Pas de compromis.
Pas de compromis. Vehabitouche, vehartna, asherkol, chayuta, toute son énergie, elle tire la force du mal, elle la tire de la grossièreté et de l'arrogance. Que Moshe Katou, comme il est écrit, comme c'est écrit dans Jérémie, que les forces du mal s'élèvent comme un aigle pour dire je suis le roi du monde. Vehabitouche, vehartna, adaformama, je vais mitouda yutula. La seule solution, comme on est traduit ici, l'écrasement et la subjugation jusqu'à la poussière véritablement. Il faut la tuer, la réduire en cendres. Je parle de mon arrogance, de ton arrogance, de ma grossièreté. Il faut la mettre en cendres. Mais comment tu fais ça? Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me casser, qu'est-ce que je dois faire? Il explique. D'abord, il va expliquer où on veut arriver, après, il va expliquer comment on va arriver à ça. Vaïnou, aliédé, lève, nishbar, venitke. Il n'y a pas le choix. Il faudra y arriver. Ça tout démarre par lève, nishbar, venitke. Un cœur brisé et contrit. Veliot nivze benav nimas. Être méprisable à ses propres yeux. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'à un moment dans ta vie, quand tu veux vraiment faire tes chouvas, tu dois comprendre que tu es une zut. Et je reste poli. D'accord? Je me permets de parler comme ça parce que dans les mots, dans la suite du chapitre, surtout en chapitre 29 aussi, on avait vu ça du Tanya, l'Admor Hazaken avait dit que quand on parle de Tzarara, il faut lui sortir tous les grands mots.
Ouais.
D'accord? Alors, les mots que tu dis à quelqu'un que tu supportes pas, il faut lui sortir. Voilà. T'es un imbécile, t'es un ci, t'es un ça. Restez poli, évidemment. D'accord? Mais, allez-y. Envoyez. Bon, mais c'est abstrait, c'est de quoi on parle ici. Je vais expliquer. Que moi, je sais qu'en vérité, on n'invente rien du tout. Vous savez sur quoi on se base pour dire ça? On se base sur un psaume, le psaume 51. Le psaume 51, c'est le psaume que le roi David, extraordinaire ce psaume, le psaume que le roi David a composé suite à l'histoire qui s'était passée avec Bathsheba. Je n'ai pas envie d'appeler ça une faute parce que c'est pas vraiment une faute, etc. Je rentre pas dedans. En tout cas, c'est un psaume qu'il a composé sur la Teshuvah. Et qu'est-ce qu'il a dit dans ce psaume? Regardez le pasouk. Dans le psaume 51, verset 19, il est écrit Zifre Elohim Ruach Nishbara Lev Nishbar Venitke. Là-bas, le pasouk, dans Tehilim, il nous parle, il dit la chose suivante. Il dit les sacrifices pour Dieu. C'est quoi le sacrifice pour Dieu? C'est un cœur brisé. Un cœur brisé. Un cœur opprimé. Ok? Alors le Zohar, il pose la question. Le Zohar, il dit, c'est intéressant. Il dit, nous, on a toujours appris que c'est quoi un korban? C'est quoi un korban? On va arriver à la parachute prochaine. C'est quoi un korban? C'est quoi un sacrifice? C'est un animal. Un sacrifice, c'est un animal. Un sacrifice, c'est un veau. Un sacrifice, c'est un oiseau. Un sacrifice, c'est une omelette. Un sacrifice, c'est un mouton. Bon, un sacrifice. Mais là, on te dit... qu'apparemment, le roi David, dans ce psaume, il te dit, c'est quoi le plus beau sacrifice que tu puisses offrir? C'est un cœur brisé. Ça veut dire quoi? Le Zohar s'arrête dessus. Il dit, le Zohar, il est médaillé, qui précise, qui, Korban, je suis à la page suivante, qui colle Korban, la Bema, le Shem Avaïm, et Rachamim, Ava, le Shem, et l'Okim, et Din, et Makrim, Korban, Bema, Kim, le Shaber, Ouachatouma, Vastraha. Le Zohar, il dit comme ça. Le Korban, le sacrifice, que tu offres avec un animal, il ne peut toucher qu'Hachem Elohim. Qu'Hachem Hachem. Yudke Vavke. Le nom de Dieu est un nom qui est lié à la tribu de la Rachamim. C'est quoi Rachamim? La miséricorde. Mais c'est le sacrifice que tu offres avec un animal, il ne touche pas à Midat Ad-Din. Il ne touche pas à la tribu de la rigueur. Par contre, lorsqu'une personne fait teshuva, qu'il a le cœur brisé ouvre toutes les portes. Je vais illustrer ça avec une histoire. Une fois, le Baal Shem Tov, il a demandé à un de ses chassidim. Il a dit, j'aimerais que tu sonnes le chauffard. Baal Shem Tov ne savait pas sonner le chauffard, je crois, mais en tout cas, je ne sais pas. Il a dit, je veux que tu sonnes le chauffard. Alors le chassid, il a dit, Rabbi, avec plaisir, je sonne le chauffard, mais j'aimerais que vous m'enseigniez vos kavanotes. Les kavanotes à avoir pendant le son du chauffard. Le Baal Shem Tov a passé plusieurs semaines à lui enseigner les kavanot.
Plusieurs semaines.
Bien sûr. Ah, c'est des kavanot extraordinaires. Parce que quand on sonne le chauffard, on construit les mondes en haut. C'est extraordinaire ce qu'on fait quand on fait le chauffard. C'est pas juste un son de cornes. C'est très profond le chauffard. Les kavanot et les tout et le tout 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 etc. Ça correspond à une chose extraordinaire. Donc il a mis la condition. Le Baal Shem Tov a accepté la condition.
C'est mon comptable.
Le Baal Shem Tov a accepté la condition et pendant plusieurs semaines, il a appris avec son chassid. Son nom m'échappe maintenant, mais il y a un nom. Donc il a appris avec son chassid toutes les kavanot. Je crois que c'était Rabbi Zev Kitses, si mes souvenirs sont bons. Et donc il a écrit toutes les kavanot, et Rabbi Zev Kitses était carré, ordonné. Donc il avait un papier, dans lequel il a écrit toutes les kavanot, plusieurs papiers. Après il s'est fait un petit mémo, comme ça, qu'il comptait garder devant lui quand il sonne, comme ça, quand il sonne, il a le mémo, il se rappelle chaque kavanot. Arrive le jour de Rosh Hashanah, il a bien sûr son mémo avec lui. Et donc il monte à la bima, pour sonner. Et là, non, il avait pris avec lui son papier. Ouais. Il met la main dans la poche pour sortir le papier. Pas de papier. Ouais. Donc il est là, il est en train de refaire toutes ses poches, etc. Il retourne à la synagogue. Introuvable. Et là, le Baal Shem Tov, il est là, tout le cas le regarde. Alors, il est là, au bout de quelques minutes, il se rend à l'évidence, le papier, moucha, il est fini le papier. Donc, en larmes, il était en larmes, parce qu'il se disait, je me suis tellement préparé, etc., il était en larmes, et il sonne le chauffard comme ça en larmes. Il termine la tefila de Rosh Hashanah, Baal Shem Tov vient le voir, et lui dit, sache que ton chauffard, il a ouvert toutes les portes. Il dit, mais comment Rabbi, j'ai pas les kavanot. Il avait oublié les kavanot, il n'y a pas de kavanot.
Voilà le papier,
il était sincère.
Alors il a dit, je vais t'expliquer. Il a dit, les kavanot que je t'ai appris, c'est les clés pour ouvrir différentes portes. Il y a un passe-partout. C'est quoi le passe-partout? C'est le cœur brisé. C'est-à-dire, si tu n'as pas le passe-partout, le cœur brisé, donc il te faut la clé de telle porte, la clé de telle porte, la clé de telle porte, et ça c'est pour la mise, et ça c'est pour la parnassa, et ça c'est pour la yeshua, c'est pour la guérison, etc. Chaque porte a sa clé. Mais toi, quand tu as eu le cœur brisé, tu as eu le passe-partout. Donc, avec ce passe-partout, tu vas faire toutes les portes.
Bon, c'est
bien sûr, c'est mon problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne peut remplacer un cœur brisé.
C'était bon pour ceux qui allaient être filés là-bas avec moi.
Alors, vous savez, c'est comme aujourd'hui, tu peux avoir des grandes méthodes. Aujourd'hui, tu peux aller voir un psy, tu peux aller voir un rabbin, tu peux aller voir un docteur, tu peux aller voir si. Des grandes méthodes qui ouvrent différentes portes. Mais rien ne remplacera un cœur brisé. Rien. Un cœur brisé, tu touches directement le point. On le voit, ça, quand on parle avec les gens.
Un cœur brisé, c'est quoi? C'est un regret à fond?
Un regret profond. Ça veut dire que, par exemple, tu vois, par exemple, c'est un exemple que je ne devrais pas prendre peut-être, mais pourquoi pas. Prenons l'exemple d'un mari qui est fâché avec sa femme, très gravement. Et ça va pas, d'accord. Maintenant, on s'habitue à tout. Ça veut dire qu'au début, c'est difficile, la première nuit, il n'arrive pas à dormir. Bon, deuxième nuit, il dort un peu moins, après, etc. Après, il dort, c'est tout. Il dort, bah, tant pis, on va dormir. Hein, t'as pas le choix, il faut dormir. Parce qu'il est fâché, il est fâché. Et ça peut continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on s'habitue à tout, ça peut continuer une semaine, deux semaines, un mois, ça continue, je préserve. Et il ne se rend pas compte qu'en vérité, il y a un mur qui se crée.
Se construit.
Et qu'il y a un mur qui se construit entre les deux. Entre lui et sa femme, entre lui et son fils, entre lui et sa fille. Il y a un mur qui se construit sans qu'on se rende compte. Et ce mur peut se construire sans qu'il y ait de cœur brisé. C'est-à-dire qu'on s'habitue, on s'habitue à tout. C'est une nature humaine de s'habituer à tout. On s'habitue, c'est comme ça, c'est ma vie, c'est comme ça. Et là, à un moment, tu vois, avec la courte expérience que j'ai, des fois on le voit ça, des fois, il y a un déclic qui se passe dans la tête, t'as la personne, elle se met à pleurer. Comme un bébé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il pleure? Il pleure parce que là, il y a eu quelque chose qui s'est brisé dans son cœur. Donc, l'arrogance qu'il avait, qui permettait d'ignorer, de dire non, mais c'est moi qui a raison, et tout va bien, et etc., et je gère le contrôle. À un moment, le gars qui était là, qui était PDG, il tombe. D'accord. Il tombe comme de la cire. Pourquoi? Parce que ce qu'on a expliqué. Parce que quand t'as le cœur brisé, tu touches, et là le problème se règle. Parce que dès que t'as enlevé l'arrogance, et que tu as repris la sensibilité, dès que tu as récupéré la sensibilité, tu peux régler le problème. Avec la Dachem, évidemment. C'est ce qu'il dit, c'est le Mourazakel. Le Mourazakel, il dit, rien ne remplacera le cœur brisé. Après, bien sûr, après, tu peux avoir, comme on a dit, tu peux aller voir un psy pour ça, un docteur pour ça, et ainsi pour ça, ainsi pour ça. Bon, tu peux aller voir tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui remplacera le cœur brisé.
Ça veut dire qu'il faut pleurer à tout prix, donc?
Non, j'ai pas dit pleurer.
Ah.
Le cœur brisé, ça veut dire récupérer la sensibilité et de sentir quelque chose qui tombe par an. C'est-à-dire qu'on se crée une carapace. Voilà. Regardez, comment ça se fait qu'un gosse, un enfant, dès qu'il a un petit problème, il se met à pleurer. C'est-à-dire qu'il exprime tout de suite, tu comprends? Il va au magasin, il veut un bonbon.
Il
veut un bonbon. Tu veux pas lui donner le bonbon. Parce que t'as pas de quoi, ou parce que tu peux pas, ou parce qu'il mérite pas, etc. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Le gosse il pleure, mais attendez.
Exactement.
C'est prouvé qu'il est larme chez toi. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Alors, c'est vrai, nous on va dire, ouais, il pleure pour un bonbon. Mais ça veut dire qu'il arrive, à exprimer ses sentiments.
Oui, ça.
Ça veut dire.
Il est prêt à ses émotions.
Et après, tu lui donnes le bonbon, il te fait un grand sourire. Makara. Ça veut dire que l'enfant, en vérité, Hachem nous a bien créé. Il nous a créé avec une sensibilité. Une sensibilité qui nous permet de pleurer, qui nous permet de rigoler, qui nous permet de vivre. Et le problème, c'est que on fait tout quand on devient adulte, on fait tout pour devenir, comment ils appellent ça, insensible. Pour être immunisé, ils appellent ça aujourd'hui. Immunisé. Il est immunisé contre les problèmes de la vie. Qu'est-ce que t'es immunisé? Quelle honte y a? Quelle honte y a à avoir de pleurer? On dit que chez le rabbi, plus d'enfants l'a vu pleurer. D'accord? Moi, je me rappelle quand on voyait le Rav Azimov, Zichrono Livracha, souvent quand il parlait, bon, il avait toujours la simcha, lui, hein, toujours la grande simcha, etc., avec les maladies qu'il avait, toujours la simcha. Mais il n'avait pas honte, des fois, dans ses cours, quand il nous parlait, etc., et quand des fois ça montait, etc., et qu'il parlait de choses qui le touchaient, il se mettait à pleurer.
Oui, normal.
Il pleurait, c'est tout. Il pleure. Qu'est-ce qu'il y a alors?
C'est pas un signe de faiblesse, hein?
C'est pas un signe de faiblesse du tout.
Non, c'est normal.
Seulement voilà, nous aujourd'hui on n'aime pas ça. C'est un signe de faiblesse. Ah, il a pleuré.
Normal.
Non. Il ne faut pas perdre la sensibilité. Et si elle a la sensibilité perdue, il faut briser ça. Il faut briser ça. Bon, alors, comment on brise tout ça? C'est en théorie, c'est magnifique, mais comment on brise? Alors on va aller en bas de la page. Ve'aher nishbar alev venitke. Hein, comment briser le cœur? C'est la question de David. Qu'est-ce qu'il faut pleurer? C'est le mois de Hadar. On va pleurer? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on brise le cœur? Alors, il dit comme ça. Il aimait Atmisher et il était ce que vous m'étaniez. À l'époque, mais attention, je précise tout de suite, c'est plus le cas aujourd'hui. À l'époque, comment on arrivait à casser un petit peu le mal, à casser un petit peu la grossièreté, à casser un petit peu l'arrogance? C'était avec les mortifications. J'ai tourné la page de 136. Les mortifications et les jeûnes. Ah oui, c'est la réalité. Tu comprends? Parce que quand le gars il est là, et vas-y, rajoute du caviar, et vas-y, serre-moi le bon vin, et vas-y ici, et vas-y ici, etc. D'accord? Et vas-y, kiff, etc. Bien sûr qu'il a oublié Hachem. Quand à un moment il se dit je mange pas pour qui? Pour Dieu, ça le calme. Ça le calme. Un jeûne, c'est calme. Seulement, rappelez-vous ce qu'on expliquait dans le chapitre 3 de Higuéret Hatshuva. On a expliqué que de nos jours, on ne jeûne plus. À part les jeûnes obligatoires par la Torah, on ne jeûne plus. Bon, alors comment on fait? Qu'est-ce qui remplace? Qu'est-ce qui brise mon cœur maintenant? Brise mon cœur, pas pour le briser. Parce que vous savez, un point très important, est-ce que vous savez quelle est la différence entre, je ne sais pas si je vais trouver le bon mot en français, atzlut et atzvut, mais bon, on va essayer de traduire en français, quelle est la différence entre la tristesse et la déprime?
La déprime, tu sais que tu peux plus rien faire, c'est pour ça que tu déprimes.
La déprime, c'est quand tu rentres.
Tu sais que tu peux plus rien faire.
La tristesse, ça n'est pas la fin du
monde. Il me faut, attendez. Je vais faire comme on fait dans la Gemara. Il me faut un cas concret dans lequel tu dis, voilà. C'est-à-dire, on fait comme à l'école.
C'est un état.
Non. Écoutez ma question. Ça veut dire comme ça. On va prendre une situation qui commence. D'accord. Et après un moment, on va prendre piste A, s'il est triste, voilà ce qu'il fera. Piste B, s'il est déprimé, voilà ce qu'il fera. Alors, on va prendre un exemple. Je prends l'exemple et après vous allez continuer.
D'accord.
Ok, vous êtes prêts? Comment on appelle ça à l'école quand on fait l'histoire, on a terminé l'histoire? Hein? Bon, c'est... Ok. Alors, on va commencer l'histoire. Donc, imaginez quelqu'un, par exemple, il était au boulot et il était avec un client très très important à lui ou un fournisseur très important à lui. Il s'est accroché, il s'est fâché. Le client a rompu le contrat. D'accord? Je parle pas de Dieu volontairement, vous avez compris pourquoi.
J'achète pas chez toi,
je te connais plus, énervé, etc. Donc du coup, je suis pas bien. Je rentre chez moi. Donc là, vous allez me donner deux options. Option A, option B. Option déprime, option tristesse. Alors, on va commencer par le premier. Option déprime. Qu'est-ce que je fais si je rentre chez moi et je suis déprimé de la situation?
Je vais intérioriser.
Il va boire, il va intérioriser. Qu'est-ce qu'il fait?
Je vais ruminer à l'intérieur jusqu'à aller en état de déprime.
Il va se renfermer, Razak.
Voilà.
Il va se mettre sous la couverture, il va dire, oubliez-moi, je n'existe plus. Voilà. Donc ça veut dire que la déprime va le pousser à l'inactivité. Par contre, si je rentre à la maison, option B. Je suis pas déprimé, mais je suis triste. Je suis anxieux. Ça m'a affecté au plus profond. et je rentre à la maison. Qu'est-ce que je fais? Option B.
J'appelle ma femme.
D'accord.
Je suis de morale.
Non.
Option B. Option B, pas trouver un autre client, c'est tout.
Option B. Non, non. Option B, qu'est-ce que je fais? Je rentre à la maison. Qu'est-ce que je fais?
Ça me rentre.
Je mange un bout.
Oui.
Ça me rentre.
Je suis triste déjà. Qu'est-ce que je fais?
J'appelle des copains.
Pour j'appelle un copain hein, pour.
Ça va, je vais faire un bilan.
Ah, voilà. Je dis, je vais attraper le taureau par les cornes. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je l'ai raté ce client? Qu'est-ce que j'ai fait qui a mal tourné? Peut-être c'est de ma faute. Peut-être c'est sa faute. Peut-être c'est de notre faute. Qu'est-ce qui a mal tourné? Et comme tu as dit, j'ai pas ce client, j'en aurai un autre. Donc là, la tristesse ne va pas me pousser à me mettre sous la couverture.
Non, ça me
tourne dans la déprime.
Elle va au contraire être un moteur qui va me relancer et qui va me dire de ça je vais me relancer. Maintenant, pourtant, les deux en français, vous voyez, ça a l'air d'être un synonyme. Tristesse et déprime. Tu dis bon, il est triste, il est déprimé. Non, mais ça n'a rien à voir.
La déprime, c'est pas de l'émotion.
Ah. Oui, mais
l'émotion, c'est la tristesse.
La tristesse, pas de
l'émotion. Oui. C'est la tristesse. C'est ce qui crée l'émotion qui te touche vraiment.
Oui.
Et l'autre partie, ça touche que l'extérieur. Maintenant, si tu y mets de toi dedans, tu te perds, là. Tu
oui, mais malade. C'est pas forcément juste ce que vous dites, parce que vous expliquez, parce que sur les deux, on peut dire le verbe être. On peut dire, je suis déprimé ou je suis triste. Donc, on est déprimé et on est triste. Donc, c'est
on
pas si simple ce que vous dites.
On parle de la tristesse.
Ah oui, mais je comprends.
Alors, tu as dit la tristesse tout à l'heure.
Ouais, mais je comprends. Mais en français, les deux passent. Donc, si on peut dire le verbe être,
c'est une
être déprimé et être triste, ça veut dire que les deux fonctionnent. Bah oui. Vous voyez ce que je viens de dire?
Oui, je suis d'accord. Ouais. Bien,
ça veut dire que je suis déprimé, je suis triste. Ah, c'est ce que je suis.
Qu'est-ce qu'on est triste, c'est ce qu'on fait? On noie son chagrin dans...
Dans le JB. Dans le JB.
Non, c'est le plaisir. C'est la fête.
Ok, bon. Alors, voilà. Donc, je disais... Reprenons notre sujet. Je suis à la page 236. Donc normalement, la vérité, le top pour briser son cœur aurait été de jeûner. C'est le top. Maintenant, Dorothée Nouélé, de notre génération, Shel Nukor Litanotarbe, ok, que David Ameler, que Mamarazal, al pasuk libechal vikir, Charles Gobetanit. D'où on sait ça? Parce que le roi David lui-même, dans ce fameux psaume 51, dans lequel le roi David dit « Mon cœur est vide à l'intérieur ». Mon cœur est vide à l'intérieur. Vide de quoi? Vide du Yetzer Hara. Et dit la Gemara, comment le roi David a réussi à tuer son Yetzer Hara? Avec le jeûne. Avec le jeûne. Le jeûne, jeûner. Le jeûne, ça casse, ah oui.
C'est assourd, là.
Ah bah, oui, mais attends, mais le problème, c'est que le jeûne n'a plus rien à le faire. Un jeûne, ça retape, tout de suite. Ça te recale, tout de suite. Ah oui.
Sauf que c'est assourd.
Mais si vous voulez, un jeûne, c'est comme une privation. C'est-à-dire, par exemple, le gars, il est là dans ton entreprise, tu comprends? T'as un employé qui est là, qui fait le malin, etc.
Et on parle pas d'un jeûne d'un jour.
Non, mais justement, mais peu importe. T'as un employé qui est là, qui fait le malin. Il dit, c'est moi le patron, je maîtrise tout, je fais ce que je veux, etc. Et moi, tu lui dis, bon, écoute, c'est quoi? Je te prive de ta paye, je t'enlève 100 euros de ta paye, j'en ai 200 euros de ta paye. Ah là, il se calme tout de suite, là. C'est la même chose. Non, mais il comprend du qui est le patron, c'est la même chose. C'est-à-dire que tant que tu manges, tu bois, mangeons, buvons, etc., on s'éclate, tout va bien. Dès que tu prives de manger, là, le corps, il capte le message qui dit, hey, mollo, tu te calmes maintenant. Mais le problème, c'est que nous, aujourd'hui, on ne jeûne pas pour des choses comme ça. Parce que nos corps ne suit pas. Alors, il dit comme ça. Il dit, l'Admor HaZaken, aujourd'hui, on peut pas jeûner. Donc, si on peut pas jeûner, on va revenir à l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Qu'est-ce qui va briser mon esprit? Il y a une seule chose qui va briser mon esprit. Ah, cependant. Milieu de la page. Ikar achna'at alev. L'essentiel, le principal de la soumission du cœur. Liot nishbar venitke. De sorte qu'il soit brisé et contrit. Et pour réussir à chasser l'esprit de l'impureté Strahara. Une technique, une seule technique. Hu, liot, nimare, de chushbena, beomek, adat. C'est en étant le maître des comptes avec toute la profondeur de l'esprit. Ça veut dire en d'autres termes, pour être plus clair, tout se passe dans la tête. Tout se passe dans la tête. Méditation. On est dans un monde dans lequel on fait tout pour que les gens ne réfléchissent pas. On ne veut pas que les gens réfléchissent. D'accord? Et ou bien on veut qu'ils réfléchissent à ce qu'on a envie qu'ils réfléchissent. C'est quand la dernière fois que tu as réfléchi sincèrement et profondément à moi? Comment je vais? Spirituellement? Comment ça avance dans la Torah? Est-ce que je me comporte bien ou est-ce que je me comporte mal? Pas ce que ma femme m'a dit, ce que mon fils m'a dit, ce que ma grand-mère m'a dit. Hein?
Quoi? Non, je disais le mot contrit, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
Contrarié?
Non, c'est qui marque le repentir, voilà ce que ça veut dire contrit.
Contrit.
qui marque le repentir.
Bon, alors revenons à notre histoire. D'accord ? Donc il dit, voilà, rappelez-vous, deux techniques pour aujourd'hui. Deux techniques, allez. Première technique, messieurs, c'est quoi ? Demander la miséricorde à Hachem. Ça, c'est première technique. Deuxième technique, c'est quoi ? Briser le cœur. Comment je brise le cœur ? À l'époque, on brisait le cœur par les jeûnes. Aujourd'hui, on brise par quoi ? Par la réflexion, la pensée. Mm-hmm. Pensez à quoi ?
On n'a pas le temps.
Ah, c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui,
c'est capable
on a le temps.
De faire l'auto-analyse. Alors,
je vais vous dire, je vous garantis qu'on a le temps. On a beaucoup plus de temps qu'on le pense. Une fois, il y a un professeur qui voulait montrer à ses élèves qu'on a le temps, qu'on a la place pour tout. Vous connaissez l'histoire ? Hein ? Hein ? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait ?
Non.
Hein ? Qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a mis des pierres, des gravillons.
D'abord, il a pris un vase. Il a pris un vase. Et dans ce vase, il a mis des grosses pierres. Vous connaissez l'histoire ?
Oui.
Et il a posé la question à ses élèves.
Est-ce qu'on peut mettre encore
c'est une vraie histoire. Il a posé la question à ses élèves, il leur a dit, est-ce qu'il reste la place ? Il dit non, le vase est plein. Alors le prof, il a pris des plus petites pierres et il les a fait rentrer. Tu vois ? Les pierres sont rentrées. Est-ce que maintenant le vase est plein ? Il dit, ah oui, maintenant il est plein. Il a pris du sable. Et encore, il a rempli des litres et des litres. D'accord ? Enfin, des kilos, des secondes. Alors il a rempli.
Et
là, il a dit, et maintenant, est-ce que c'est plein ?
Oui,
oui, maintenant, c'est plein, ça y est,
de l'eau,
place.
De l'eau.
Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit, non. Maintenant, il a pris de l'eau. Et il a fait entrer de l'eau. Et l'eau s'infiltrait encore et encore. Et qu'est-ce qu'il voulait montrer par là ? Je crois que c'est fini après l'eau.
Non, après l'eau, je peux plus. L'eau, ça plus.
Il avait de la bière, il avait une canette de bière.
Alors, qu'est-ce qu'il voulait montrer par là ?
Après, il tombait de l'huile.
Ce qu'il voulait leur montrer par là, c'est qu'en vérité, toi, tu crois que t'as pas de place. Tu dis, j'ai pas le temps. Il y a de la place. Il faut savoir faire de la place. Il y a de la place pour ce que tu veux. Rappelez-vous l'histoire que je vous racontais avec le Baal Shem Tov. Lorsque le cocher est venu leur demander de l'aide, et que, ils ont dit, on peut pas. Qu'est-ce qu'il leur a répondu le cocher? Il leur a dit, pouvoir, tu peux. Vouloir, tu veux pas.
C'est vrai.
Oui.
Mon père m'a appris une chose. Il m'a dit, quelqu'un, il t'a fait des bien. Il t'a fait de mal. Fais-lui du bien. Et après, ce gars-là, il va venir chez toi et te dit pardon. C'est ça que ça veut dire, comme tu as dit, le client. Quelqu'un, il veut faire, voilà, je viens pas chez toi. Comme tu veux, mon frère. Fais ce que vous voulez.
Il revient.
Là, il revient.
Bien sûr qu'il va revenir.
Ah ben, si tu lui dis, bon, tu vas aller là-bas, vas-y, je m'en fous, moi.
Tu perds pas ta dignité, bien sûr.
Il faut savoir comment répondre.
Alors, réfléchir à quoi maintenant ? On a dit qu'aujourd'hui, la méditation. Qu'est-ce qu'on fait ? Faire du yoga maintenant ? C'est quoi ça ?
Ah oui.
C'est quoi ça ? Méditation. Je veux méditer à quoi ? À quoi je veux méditer ? Alors voilà, on va parler clairement. On va expliquer clairement. Hein ? Quoi ?
Est-ce que la sophrologie, c'est.
Il faut voir après. Oui, après.
Tu rigoles, là.
Hein ? À quoi ?
Yoga, est-ce que
ça te Il y a des choses cachées, des choses ne sont pas cachées. On va se tenir aux méthodes de la Torah. Voilà. On a ce qu'il faut dans la Torah. Donc, Léamik, d'accord, donc il dit, Béromek Adat. Béromek Adat. Alors, vous savez, en fait. Donc, c'est intéressant. Il dit ici, Mimare de Khushbena. Être. Maître des comptes. C'est quoi maître des comptes ? C'est comme un balabaït. Comme un balabaït, maître des comptes, qui est là pour dire où j'en suis. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer ça. Pour illustrer qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'il faut être maître des comptes. Et qu'il faut un moment faire les comptes. Une fois, il y avait un paysan. D'accord ? Aidez-le. Venez, il va aller dans la pièce d'à côté, il va vous aider à appeler. Krasak. Alors, une fois, il y avait un paysan.
Michel.
D'accord ? C'est bon. Une fois, il y avait un paysan qui était illettré. Ok ? Et ce paysan, comme il était illettré, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a payé un mélamed. Mélamed, c'est un enseignant pour enseigner ses enfants, la Torah à ses enfants. Maintenant, comme il était illettré, le paysan, dès qu'il recevait un courrier, qui lisait le courrier ?
Les enfants.
Non, c'est le Mélamed.
Mélamed, d'accord.
Mélamed. Bon, c'est comme ça que c'est passé. Une fois, le Mélamed, une fois on a reçu un courrier, et il amène au Mélamed. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le courrier ? Dans le courrier, on raconte que le père du paysan, il est mort. D'accord ?
C'était la messagerie.
Il n'y a pas de problème, voilà. Donc, on raconte, je reprends l'histoire, on reprend l'histoire. Donc, je disais, il y avait le paysan, d'accord ? Il y avait le paysan, et il y avait un mélamède. Le paysan, il était illettré. Donc, chaque fois qu'il y avait un courrier qui arrivait, qui c'est qui lisait ? C'est le mélamède, il lisait. Bon. Donc, une fois, il y a un courrier qui arrive, qu'est-ce qu'il annonce, ce courrier ? Ce courrier annonce, il annonce au paysan que son père est mort. Donc, le mélamède, il ouvre le courrier, et il lit ce qui est écrit. Et il répète le message. Il répète le message au paysan, et le paysan s'évanouit. Alors, on a posé la question, on a dit, comment ça se fait que le mélamède, comment ça se fait que le mélamède, vous inquiétez pas, vous êtes là, vous inquiétez pas. Comment ça se fait que le mélamède, lui, quand il a lu le courrier, il s'est pas évanoui. Et l'autre, il s'est évanoui.
C'est pas son père.
Il n'est pas concerné. Parce que l'autre, c'est pas son père.
Ah oui, lui.
Tu comprends? Alors, de la même façon, c'est un machal qu'on a même beaucoup dans la chassidoute pour expliquer la différence qu'il y a entre une personne qui est maître des comptes et qui est concernée et une personne qui n'est pas concernée. Ça veut dire que tu peux passer un Rosh Hashanah, un Kippour, tout ce que tu veux, tu peux faire un bilan, mais on parle pas de moi. Ça veut dire que je suis comme l'enseignant qui est en train de lire une lettre dans laquelle on dit que si quelqu'un a fauté, voilà ce qui arrivera et voilà, on parle de quelqu'un qui a de quelqu'un. Mais on sent pas que c'est Abba Sheli, c'est mon père. On parle de mon père. C'est la même chose. Ce qui te dit, c'est le Morazaken. Le Morazaken, il te dit en vérité, le problème principal, pourquoi on appelle le cœur brisé? Parce qu'on ne comprend pas que c'est mon père. C'est pour reprendre l'exemple, évidemment. On comprend pas qu'on parle de moi. C'est de moi qu'on parle. On parle pas de Tartampion. C'est-à-dire que, on fait tout aujourd'hui, tu vois, pour essayer de prendre du recul par rapport aux situations. De dire, bon, alors on va analyser le problème, on va faire des bilans, on va faire des rapports. Donc ce problème, voilà comment il devrait être réglé. C'est un problème, c'est pas mon problème. On se détache. C'est la réalité, c'est comme ça qu'on vit aujourd'hui. Combien de problèmes vous touchent réellement aujourd'hui? Des problèmes qui vous touchent, qui vous empêchent de dormir? Très très peu. Et je vais vous dire plus que ça, même quand c'est un problème qui finit par te toucher, tu t'habitues à tout. C'est-à-dire qu'après, le problème ne me touche plus. C'est un problème, c'est pas mon problème. Et c'est là ce que tu dis à Morazaken. Morazaken te dit, même un jeune ne l'aurait pas apporté. Parce que même un jeune, il va te montrer qu'il y a un problème. Un problème qu'il faut régler. C'est pas mon problème que je dois régler. Mon problème. C'est mon problème. C'est moi qu'on parle.
Et on s'habitue à tout.
Ouais. On s'habitue à tout. Et ben voilà. Tout démarre par la réflexion. Réflexion. Comme il dit ici à Morazaken, de comprendre, il dit, Kebaal Abayit. Comme un Baal Abayit. D'accord? Dans les mots. Regardez. C'est où ça ici? Liyot, mi mare de Khushbena. Voilà. Mi mare de Khushbena, be'omek adat. Voilà. Be'omek adat. Donc, s'approfondir. Avec, s'approfondir. D'accord? Be'omek adat avec toute la profondeur d'esprit. Normalement, et ça aussi on devrait le faire, mais bon, on le fait plus. On va descendre, c'est pas grave. Normalement, à la place du jeûne, on devrait faire Tikkun Ratzot.
On peut pas changer le jeûne.
C'est quoi Tikkun Ratzot?
Le bilan.
Tikkun Ratzot, c'est un bilan. Tous les jours, faire un bilan.
À 1h du matin, là.
Faire un bilan. D'accord. Faire un bilan, réfléchir. Réfléchir à quoi? Passons à la page suivante, 237. Leit bonen, bemash, et paal, veasa, bechataav, prinat, galut, ashrina. Est-ce que tu t'imagines, que à cause de tes fautes, à cause d'Averot que tu as fait, tu as renvoyé la shrina, tu as viré Dieu, tu as mis dehors, c'est la réalité. Vegaram, l'accord, nishmato, venafshua, elokit, mechaya, chaim, baruchu. Non seulement tu as viré Dieu, mais en plus de ça, ta neshama, tu l'as déconnectée de sa source, de son origine. Elle était connectée à sa source avec le Kadosh Baruch Hu, et toi tu l'as déconnectée sauvagement. Tu dis, j'en ai rien à faire, maintenant laisse-moi kiffer. Et qu'est-ce que ça fait avec cette neshama? Veorida, le makom atuma va mavet. Tu l'as fait descendre dans le lieu de l'impureté et de la mort. En echalot asitra hara, qui sont les palais asitra hara des forces du mal. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que j'ai fait. Ok? Au point qu'elle est devenue un char pour eux. Ça veut dire quoi? Au point que mon âme divine est devenue un outil des forces du mal, un zombie. C'est-à-dire que maintenant, je ne maîtrise plus ce que je fais. Qui maîtrise ce que je fais? Ben, c'est ce qui va se passer dans le showbiz, c'est ce qui va se passer dans la mode, c'est ce qui va se passer par les dernières tendances que j'aurai, etc. Je ne maîtrise plus rien du tout. C'est-à-dire que non seulement je me suis déconnecté, j'ai pris mon âme divine, je l'ai déconnectée du bien. Elle est devenue comme un char qui est dirigé par un conducteur. Donc je ne me conduis plus, hein, sans faire de jeu de mots. Je ne me dirige plus. Qui me dirige? Ce sont les forces du mal. Ça veut dire que cette personne-là ne dirige, ne maîtrise plus rien. Non, cette personne, c'est qui? C'est moi. Vous allez dire, mais attends, Andy, ça va, t'es parti trop loin, on n'est pas là, bon, Hachem, on a encore le Tania, ça va, on est venu, on est habitués.
On parle de rachat.
On parle de rachat, là. Mais quelque part, chacun de nous, pour certaines avérotes, pour 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 avérotes, tu es comme ça. Alors, qu'est-ce que ça change? Après, c'est dans la quantité. C'est que l'autre, il est rachat, l'autre, c'est un rachat milliardaire, toi, t'es un rachat débutant. C'est pas OK, mais ça change pas. Rachat milliardaire ou rachat débutant, t'es un rachat quand même. Ça veut dire que tu as viré Hachem et tu fais souffrir ta Neshama. C'est très dur ce qu'il dit ici. Il dit ici qu'en vérité, ce que je fais, c'est que maintenant, quand je fais une avéra, rappelez-vous le chapitre 6, je prends ma Neshama et je la passe dans le canal B. Je lui dis maintenant, tu vas être nourri comme les Réchaïm, comme le Mécréant, comme les forces du mal. Et ça passe par là-bas. Et elle ne peut rien faire. Elle est prise en otage, prise en captivité. Elle ne peut rien faire. Imaginez la souffrance qu'est pour ma Neshama. Non, je me rends pas compte, parce qu'encore une fois, regardez le piège dans lequel moi-même je viens de tomber. Je vous parle de la Neshama. C'est ma Neshama. Tu comprends? C'est pas l'âme divine. C'est mon âme. C'est moi. Mais encore une fois, on met toujours des mots. Ça veut dire, on dit, c'est le problème. Il y a une âme. L'âme divine, l'âme animale. Et moi, dans tout ça, c'est quoi? C'est pas l'âme divine. C'est mon âme. C'est de moi qu'on parle. Ça veut dire que j'ai pris une partie, imagine-toi que tu as pris une partie de ton corps, tu l'as amputé, d'accord? Dieu préserve, c'est la réalité. Tu as pris une partie de ton corps, alors je donne un exemple qu'il y avait dans Tania, chapitre 5, 6, il dit là-bas, il dit c'est comme si tu prends la tête du roi, pour l'exemple, on prend ta tête, tu prends ta tête, tu vois, tu prends ta tête qui est là, qui peut respirer de là, etc. Tu la prends, tu la mets dans les toilettes. Imaginez voilà, la gousse de vache, comme ça, d'accord? Et tu plonges ta tête dedans. Allez, dis, je kiffe. Qu'est-ce que tu kiffes?
Il plonge.
La vache prend
des poissons.
Je vais raconter une parabole. Il y a un machal. Une fois, il est un peu cru celui-là. Une fois, il y avait un oiseau qui était là. L'oiseau, il était là, il était dehors. Il faisait froid. Il avait très froid. Alors, il y a un moustique qui est venu, qui a commencé à titiller un petit peu. Il était là, il avait froid, ça lui cassait les pieds. Et une vache qui est passée, et elle a lâché un gros morceau, ça. Ah, il était bien chaud. L'oiseau, il était là, il kiffait, il a dit tout va bien. D'accord, chaud. Après, il y a eu les mouches qui sont venues. Et les mouches, ils ont commencé à essayer de récupérer.
Les excréments.
Et lui, il était là, l'oiseau, il dit, ah, c'est en train de m'enlever mon confort, c'est en train de m'enlever ma couverture, etc. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre de ce machal. J'ai oublié les trois choses. Trois choses qu'on peut apprendre. D'abord, ce qu'on apprend, c'est que, des fois, quelqu'un, il est en train de, je sais pas comment on dit, pas gerber, comment on dit, il est en train de déféquer, il est en train de déféquer sur toi, et toi tu te sens bien, mais en vérité il a déféqué sur toi. Et des fois aussi, d'un autre côté, t'as une personne qui vient te sauver, qui vient te nettoyer, et toi t'es tellement dans ta gadoue que tu te rends pas compte qu'en vérité c'est pas bien ce que tu vis. C'est un machel que les chassidim m'amenaient, alors c'est un peu cru. Surtout à l'époque, vous savez, vivre dans les fermes, etc. Donc, c'était les choses qu'ils voyaient, quoi. Mais c'est un machal intéressant. Ça veut dire que justement, dans ce machal, que des fois, la personne, il se met dans la gadoue, tu vois. Il fait chaud. Il comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui fait chaud? C'est un excrément qui pue. Mais comme il fait chaud, il dit, ah, j'ai froid, je kiffe. Il dit, mais tu veux te réchauffer? Bouge. Tu veux rester dans l'inactivité, tu vois? Il veut rester sans bouger. Voilà. Tu veux te réchauffer? Bouge.
Confort sans se fatiguer.
D'accord? Lui, il veut être là sans se fatiguer. Alors, on lui envoie. La vache, elle vient, elle lui lâche un... Tu comprends? Ça veut dire que ce que je vais expliquer par là, c'est que faut faire un vrai cheshbon nefesh, un vrai bilan. Un vrai bilan dans lequel on va avoir des vraies réponses. Un vrai bilan dans lequel on se pose des questions. On se dit, est-ce que tu t'imagines ce que tu as fait à ton âme divine? T'avais une âme divine qui était là, qui était tranquille. Rappelez-vous la pureté qu'on avait quand on était enfant. Dieu, il t'a créé, t'étais pur. Regarde ton gosse comment il est. Il est pur. Hein. Imagine que quand t'étais petit, t'étais comme ça. T'étais pur. Aucune arrière-pensée, aucun problème. Pur, à l'état le plus pur possible. Et comment tu viens? Tu fais descendre, au point que ton âme divine, elle est comme un zombie, elle est dans les forces de la manivelle. Alors, ça fait beaucoup de peine quand on lit ça. Parce que tu dis, finalement, alors, il y a un mot très fort. C'est pas moi qui le dis. Vezeu shamur rabot razal, de par la fin avant la fin. Et c'est là que les sages ont dit, dans la Gemara Brachot, Rechaim bechayem kruim metim. Que les Rechaim de leur vivant sont appelés morts. Oui, bah oui.
Mais faut rire.
Bah oui, parce que. Il est mort, le gars. Il est mort seulement comme il croit qu'il est dans les excréments et que c'est un peu chaud, il fait bon, il fait bon. Mais t'as pas compris que t'es déjà à moitié enterré. T'es à moitié enterré, tu respires plus. T'es pas dans ton élément. T'es en prison. Et ça, ils se rendent pas compte. Et ça, le rabbi il explique souvent dans les machals, toujours un machal intéressant aussi. Vous prenez un lion. Vous l'amenez dans un zoo. Est-ce que vous avez déjà vu le lion dans le zoo? Il a l'air de quoi?
Malheureux.
Il est malheureux.
Très bien, pendant son élément.
Pourtant, attendez, seconde. Pourtant, pourquoi il est malheureux? Pourquoi il est malheureux? Quand il est dans la forêt, il a besoin de se battre pour manger. Là, ici, maintenant, il n'a plus besoin de se battre. On lui dit, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais te battre pour manger? On te donne. Tu vas avoir des enfants? Tu vas avoir des enfants? On te paye pour les enfants. T'es malade? D'accord? T'as un vétérinaire qui a tes soins? Où est le problème? Nourri, logé, blanchi, fais des enfants, on te remerciera, t'es content, etc. Où est le problème?
Il est au top.
Il est malheureux. Pourquoi il est malheureux? Parce qu'il n'est pas dans son élément. Pour être dans son élément, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de la liberté. D'accord? De la même façon. Bien sûr. Tu prends un oiseau, il pensait avec les aigles aussi, tu l'enfermes dans une cage. Tu lui donnes tout ce que tu veux, tu lui donnes de la viande, de la bonne viande, etc.
Il va mourir.
Il va mourir.
C'est clair.
Il y a combien de temps ils tiennent?
Qu'est-ce
que tu crois?
Un aigle.
Il ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de liberté. C'est-à-dire que quand tu enlèves à une personne sa liberté, il ne fonctionne pas. Pourtant, c'est pas logique. Alors, regardez. Tu prends par exemple une plante. Elle reste à sa place. Mm-hmm. Elle pousse, elle reste à sa place, elle est contente. Pourquoi l'animal ne va pas rester à sa place? Parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé chaque être et chaque chose de notre nature avec une nature spécifique à lui. Et quand tu veux prendre la nature de l'un pour l'adapter à l'autre, ça ne marche pas. Quand tu veux prendre la nature, quand tu veux appliquer la nature d'un arbre à un lion, ça marche pas, et vice versa. C'est-à-dire que l'arbre, il a besoin d'être nourri à sa place, le lion, il a besoin de bouger, l'aigle a besoin de voler, et tu peux pas changer ça, tu peux pas modifier ça. Alors, le rabbi explique de la même façon. Il dit, quand tu prends un juif, tu dis, il va se marier avec une goya, du préserve. Il peut pas être heureux. C'est impossible. Le mariage d'un juif avec une non-juive, c'est impossible que ça mariage heureux. C'est pas possible. Ah, pourtant tu vas dire, oui, mais je connais des gens qui ont l'air heureux.
Oui.
Ils sont pleins aux as, ils ont l'air heureux, etc. Qu'est-ce qu'on te répond? On te dit ça, c'est ce que tu crois. C'est pas moi qui, c'est le rabbi qui dit. Le rabbi te dit, c'est impossible d'avoir un mariage heureux avec une non-juive. Et c'est pas, le problème, c'est pas elle. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est que c'est incompatible. C'est-à-dire que même si c'est une prison dorée. Et que même si c'est une prison, c'est-à-dire que c'est une prison dorée, ça veut dire qu'il a tout, il a tout pour elle, elle est belle, elle est riche, elle est gentille, elle est tout ce que tu veux.
Comment tu mélanges?
Ça ne change rien. Le problème n'est pas chez elle, ça c'est le chidouche. Le problème n'est pas chez elle, le problème n'est pas chez toi. Le problème il est dans la situation. C'est une situation qui est incompatible. Incompatible.
Dans ce cas-là, je connais des cas comme ça. Pourquoi il divorce pas en ce cas-là?
Quoi? Alors il y a deux choses. Ou bien il arrive à admettre, parce qu'il faut admettre après qu'il y a un problème. C'est difficile après admettre. Il a déjà une femme et des enfants, une situation. Des fois, il n'arrive pas à admettre.
C'est plus difficile.
Donc, il va créer une façade. Ouais. Une façade qui va dire tout va bien. Mais au fond de lui, il pleure. Il est malheureux. Hein? C'est la réalité. Ou il pleure, ou il arrête de réfléchir. Voilà ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il le pousse à arrêter de réfléchir. Parce que le Yetzer Hara, il sait, dès qu'une personne réfléchit sincèrement et honnêtement à sa situation, il ne peut pas ne pas revenir. Essayez de vous rappeler la dernière fois que vous avez un problème majeur dans votre vie. Essayez de vous rappeler à quel moment ça a réellement changé. Ça a réellement changé quand vous avez réfléchi sincèrement, vous avez décidé de dire bon, maintenant ça suffit de réfléchir, ça suffit de faire appel à des spécialistes, du dimanche, d'accord? D'accord? On attrape le taureau par les cornes, on va régler le problème. Et Dieu il aide, on règle le problème. Et des fois on se rend compte qu'un problème qu'on croyait être majeur, en vérité c'est un problème qui pouvait se régler. Seulement, c'était pas un problème que j'ai géré. C'est un problème qui était externe, que j'ai pas intériorisé. Dès que tu intériorises, c'est la solution. C'est ce que disait le Morazagan. Maintenant, évidemment, ce que je dis ici, c'est des mots. C'est-à-dire que concrètement, est-ce que ça veut dire quand on va sortir du cours de ce soir, on va dire, ça y est, j'ai changé? Non. Parce qu'il faut un travail individuel. Un travail, d'accord? Vous savez, chez les Chassidim Breslev, ils parlent beaucoup de Idbo Dedout. C'est quoi une bonne doute? Ils vont, c'est l'isolation. Ça veut dire qu'ils vont dans les champs, etc. La nature, et ils se mettent à hurler, bon, etc. D'accord. Alors, nous, chez Rabat, on fait pas ça. Mais chez Rabat, on fait Itbonenout avec un noun. C'est différent. Itbonenout, c'est la réflexion, la méditation.
Mais en moins fort.
D'accord. Ça veut dire que c'est différent. C'est-à-dire, c'est pas. Méditation. Vous n'avez pas idée à quel point réfléchir, utiliser sa tête, ça peut ouvrir, ça peut être la solution de tous les problèmes. On arrête d'utiliser notre tête. Réfléchissez, tu utilises ta tête pour quoi aujourd'hui? Pour la survie. Pour dire, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je dois gagner ma vie, je dois faire ci. Mais est-ce qu'on utilise notre tête pour réfléchir aux vrais problèmes? On fait tout pour, plus on avance dans le temps, et plus on arrête de réfléchir. Aujourd'hui, on dit, pourquoi tu veux réfléchir? J'ai une application qui va faire ma place. Tout. D'accord? Je vois même les enfants, tu vois. Tu veux faire un calcul, dis, attends, on va voir dans l'iPhone. Quel iPhone? Où est l'iPhone? Prends ton stylo, fais l'addition.
Je connais bien des
quoi
avec le
quoi.
Mais des fois, je connais même pas avec des cartes, je suis obligé de votre fondre.
Ça nous rembête.
Ah oui, ça n'est pas ça.
Non, moi, je me rappelle. Je me rappelle quand j'étais petit. Je connaissais par cœur. Je connaissais par cœur tous les numéros de téléphone de ma classe. Aujourd'hui, vous demandez le numéro de téléphone de ma sœur, je suis incapable de vous le dire. D'aucune de mes sœurs d'ailleurs.
Moi aussi, pareil.
Je connais encore le numéro. Hein,
c'est ça.
Est-ce que tu l'as toujours connu quand tu l'as connu quand tu étais petit?
Voilà.
Le numéro aujourd'hui, c'est mort.
Ah, c'est fini.
Aujourd'hui, personne ne connaît le numéro de personne.
Tu me demandes aujourd'hui quel est le numéro de téléphone de ma fille? Je suis incapable de le dire. Elle est dans mon téléphone.
06 14 22 40 90. Mon fils, oui.
Pourquoi? Comment ça se fait?
Parce que
justement, plus on avance dans le temps, et il apprend le numéro de téléphone par cœur là. Michel.
Non, je fais. Mais tu as raison, c'est d'apprendre les numéros. On a 4-5 ans.
Les numéros de téléphone sur le portable, on ne s'en rappelle pas du tout. Mais le peu de numéros qu'on a dans les lignes fixes, on s'en rappelle.
Donc ça veut dire finalement, aujourd'hui, finalement, j'utilise.
Je ne me rappelle pas de 0-1.
Oui, pourquoi? Parce que c'est dans ta tête.
Ou des 0-2.
Tu utilises ta tête finalement pourquoi? Tu utilises ta tête pour des choses qui sont inutiles, alors que tu n'utilises pas ta tête pour les vraies choses. Bon, c'est pas qu'un numéro de téléphone, c'est une vraie chose. Tant mieux, si HM nous facilite la vie, c'est tant mieux, il faut utiliser la technologie.
Ah oui.
Mais d'un autre côté, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas qu'à cause de ça, notre tête arrête de réfléchir.
Pourquoi tu ne te rappelles plus les numéros?
Parce que je n'ai pas besoin de m'en rappeler.
Non, je
vois de la main, maintenant je suis
en train de voir. Parce qu'aujourd'hui, il y a les noms.
J'ai un cadeau enlevé, je n'ai par cœur enlevé.
Tu n'appuies pas les numéros.
Oui, je sais, oui, j'ai compris.
Tu m'as appelé.
On n'appuie même pas, on lui parle au téléphone.
Tu n'appuies même pas sur le bouton aujourd'hui. Tu dis, dis Siri, appelle.
Non, même pas, on lui dit même pas, dis Siri.
Même pas, on dit Siri.
Non,
pas, on dit Siri. On lui parle. Voilà. Bon, c'est vrai, on continue. Ok. Donc vous voyez, le rachat, revenons, quittons les téléphones. Le rachat de son vivant est appelé un homme mort. Pourquoi il est appelé un homme mort? Parce qu'il ne vit plus. La Gemara a dit, cette semaine c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on va lire un psaume. Un des psaumes, on va dire, Lo Hametim Yihallouya. On va dire, les morts ne peuvent pas louer Dieu. Et la Gemara pose la question, elle dit, mais c'est évident que les morts ne peuvent pas louer Dieu. Ils sont morts. De qui on parle? Elle dit, non, la Gemara, t'as pas compris. On parle pas des morts qui sont morts. On parle des morts vivants. Parce que dans la Torah, il y a des vivants qui sont, il y a des morts. Il y a des morts qui sont plus vivants que toi. Quand tu vas dans un cimetière, comment dire en hébreu un cimetière? Bet Ha'chaim, la maison des vivants. Parce qu'ils sont plus vivants que toi. Tu comprends? C'est-à-dire que tu peux être mort vivant et vivant mort. Et tu peux être mort mort et vivant vivant. Ah ben oui. C'est ce qu'on te dit. Le rachat est appelé.
Hein?
Tu peux être vivant mort, mort vivant, mort mort, vivant vivant. Bah oui, c'est ce qu'on a rien à dire. Donc le rachat est appelé mort. Pourquoi il est appelé mort? Parce qu'il ne vit pas. Maintenant tu vas voir un kiffer comme ça qui est là en train de kiffer et les bêtises, etc. Il va dire mais vous vivez pas. Parce que lui il croit qu'il est en train de vivre. Mais t'as rien compris. Ta vie c'est une mort.
Tu sais pas quoi tu passes.
Ta vie c'est une mort. C'est pas ce que tu rates, d'accord? C'est parce que tu rates la vraie vie, le kiff.
Mais, kiffe ta vie.
Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. C'est un texte de chez nous, ça. Ouais. D'accord?
Ah bon.
C'est un texte de chez nous. Hein, carpe diem, exactement. Carpe diem, voilà. En deux mots, c'est carpe diem. D'accord? Hein? Mais ça vient de chez nous. C'est-à-dire que c'est, la, on te raconte ce que le prophète, il disait ce que les, hein? Carpe diem. Tu connais pas carpe diem?
Tout ce que tu veux, tu vis, tu...
Carpe diem, c'est, ça veut dire, comment on va dire ça?
La jouissance, quoi.
Les, voilà, les jeunes, ils disent, vis le moment, vis le moment.
Exactement.
Tu jouis le moment, point. Terminé. Le reste, en tant que...
On verra demain.
Hein? Mais d'un autre côté, dans la Torah, on accepte ça aussi. Quelque part. Oui. Pas dans le mal, dans le bien. L'Admor HaZaken, il disait comme ça. L'Admor HaZaken, dans lui-même, il disait, un jour d'été et une nuit d'hiver.
Un jour d'été et une nuit d'hiver,
c'est une année entière. Un jour d'été et une nuit d'hiver, c'est une année entière. C'est un peu carpe diem, ça, c'est hein.
Voilà, exactement, ça veut dire que le jour présent, sans te soucier du lendemain.
Non, ça, non. Voilà. C'est pas ce que je dis, ça.
C'est ça, carpe diem.
Voilà. Moi, c'est une autre sorte de carpe diem. Voilà. Moi, c'est carpe diem positif. Dans le sens, un jour, c'est une vie. D'accord? Ok, on va continuer. Alors, donc vous voyez, les Rechaim, ils sont appelés morts. Pourquoi morts? Parce qu'ils ne vivent pas. Parce que c'est quoi la vie? La vie, c'est la Torah, la vie, c'est les mitzvot. Et c'est ça ce que tu dis ici. V'chen mashekatu la metim yalleluya, no que l'agla rachot shalom. Ce qui est écrit dans le psaume qu'on va lire cette semaine, si tu veux, Rosh Chodesh, que les morts ne peuvent pas louer Hachem.
Pourtant, quand on dort la nuit, on est considéré comme mort.
On est, pardon?
Quand on dort la nuit, ça n'a rien à voir, ça. On est considéré.
Oui, c'est pas la même chose. Ça, c'est... Venez. Je parle pas de la mort physique, ça, c'est rien, ça.
Oui, j'ai compris.
Je parle de la mort de la neshama.
On est présent, mais bon.
Je parle pas de la mort physique, la mort du corps. La mort de l'anjama, c'est la pire des choses. Quand la flamme s'éteint.
Il est présent et alors qu'en vérité, il est plus là.
Ça veut dire que tu peux avoir une personne qui pète la forme, je m'excuse du terme. Mais il est plus là. Il est ailleurs. Scarface.
C'est ça.
C'est brillant.
Comment il s'appelait l'acteur, vas-y?
Al Pacino.
D'accord. Il est là, il monte, il vit. Dans sa tête, il vit.
Maintenant, c'est un film qui a plus de 30 ans, 40 ans. Il y a des t-shirts encore dessus.
Ne le regardez pas à cause de moi, je veux pas.
Non. Les jeunes, ils
se. Ça veut dire.
C'est des références pour eux.
Hein? Ça veut dire qu'il monte, il monte, il monte, il monte dans les tours. Il a les yeux qui pétillent, il est sûr qu'il a tout compris. Il a rien compris.
Non, puis il a la
suffateuse. Pas le parrain.
Ok. Bon, on continue. Et là, la kavana. D'accord? Al rechaim, shebechayim, kruim metim, shebevalbelim, otam, marchavot, zarot, beodam, berisham, venem, chavasim, tshuva, kanuda. C'est quoi un mort? Un mort, c'est une personne qui ne vit plus. C'est quoi une personne qui ne vit plus? C'est une personne qui a perdu la sensibilité. À quel moment on considère qu'un organe est mort? C'est lors qu'il ne sent plus rien.
Ah oui.
Tant que l'organe sent, quand vous allez chez le dentiste, le dentiste, il est là, il sonde.
Ah ouais.
Et il attend une réaction. D'accord? D'accord? Le dentiste, il est là, il sonde. Il attend une réaction. Et dès que tu sautes en l'air, le dentiste est content.
C'est là, il est content, il a trouvé.
Après, il est content. Il dit, c'est bon, j'ai trouvé le nerf.
Voilà.
Il y a un nerf, il est vivant.
Et toi, t'es là.
Par contre, s'il est là, il envoie des aiguilles, il envoie des bulldozers, il charcute, tu t'en sens rien, t'as rien à faire. Là, tu vas passer à la caisse. D'accord. Pourquoi? Parce que ça le chat. Parce que, tant que t'as la sensibilité, tu gardes la vie. Donc, dès que t'as perdu la sensibilité de la Kdusha, t'es mort. C'est ça le truc. Donc, tu peux être vivant, mort. Vivant dans le sens que je suis vivant, je suis en forme, mais il est mort, il a perdu la sensibilité de la Kdusha. Il passe à côté de la plaque. C'est quelque chose que même un simple enfant, il est à côté, il aurait pu capter, lui il capte plus. Il voit rien. Il n'y a pas de problème. Il est passé à côté. Alors, vous voyez, volontairement, là, si vous voulez, on a fait un peu une caricature. C'est-à-dire, on a poussé, on a fait Scarface, là. Quand on a poussé le grand rachat, celui qui est parti. La drogue.
Ah oui, c'est
voilà.
Que la drogue.
Voilà, c'est-à-dire que le gars, il est monté dans les tours. Il est au fond.
La drogue, elle lui est face à la tête.
Évidemment, on n'est pas à ce niveau-là. Mais, c'est important de faire une caricature pour montrer jusqu'où on peut arriver. Et c'est l'objet du cours la semaine prochaine. Dans lequel il va dire que même si, des fois, je dis non, mais moi, j'ai pas fait des grosses avérotes comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je fais des petites avérotes de temps en temps, par-ci, par-là. Il expliquera la semaine prochaine que même une petite avéra, mais ça on va expliquer la semaine prochaine, c'est comme un nuage. Tu prends un nuage qui est léger, il te cache un peu le soleil, pas beaucoup, mais tu prends un petit nuage qui se superpose, hein, un petit, le petit nuage devient un gros nuage.
Tu vois plus rien.
Ça veut dire qu'à force de superposer les avérotes les unes sur les autres, on forme un gros voile, on forme une insensibilité. Et c'est pour ça que quand tu vois un tzadik, tu trembles. Pourquoi tu trembles? Parce que le tzadik, il a gardé la sensibilité. C'est-à-dire, il dit un truc, tu sens qu'il le vit. Et c'est pour ça que quand tu arrives devant lui, tout de suite, ça te saisit parce que tu dis, mais attends, c'est vrai, mais j'ai perdu la sensibilité. Je me rends pas compte de la gravité. Quand tu vois un tzaddik, tu vois qu'il vit la situation. Il est dedans. Il est dans le coup. Toi, tu... T'es comme dans un conte de fées. On te raconte, il y avait un truc comme ça. Bon, c'est un conte de fées. Et alors? Et ça, c'est la tchouva. Mais encore une fois, ça demande beaucoup de méditation. On finira pas en un seul cours. Il faut avoir plusieurs cours dessus. Mais on est déjà dans la deuxième piste. Première piste que nous avons pour faire tchouva, c'est de demander de l'aide à HM. Tout le temps de l'aide à HM. Il y a incontournable. Il y a rien irremplaçable, l'aide à HM. Mais après, d'un autre côté, il y a un travail personnel. Il faut transpirer. Il y a l'inspiration d'HM et la transpiration. Tu transpires pas, tu n'obtiendras rien. C'est quoi la transpiration? Il faut se remettre en question. Se remettre en question et de dire qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux changer? C'est mon problème, c'est ma situation, qu'est-ce que je peux changer? Et quand on voit les choses comme ça, on trouve des solutions. Mais si on est distant, si on prend le problème comme ça, de façon distante, etc., après rien ne te dérange. Vous savez, c'est comme on avait donné l'exemple du clochard, ça fait quelques mois, un an. Le clochard, tu prends dans la rue, le clochard qui est là, il est insensible. Il peut faire froid, il peut faire chaud, il peut puer. Il s'habitue à tout. C'est-à-dire que le gars, il est là, il est dans la gadoue, il pue, il sent mauvais, etc. Ça ne dérange plus. Et il est là, donc quand il va se baigner, qu'on m'a donné une bouteille de vin. Et qu'on m'a donné une pièce. Ah, j'ai la bouteille de vin.
Même la bouse de vache pour
acheter du vin béni. Hein.
Même la bouse de vache pour
C'est la bouse de vache, exactement. C'est quoi alors?
Il est content.
C'est la bouse de vache. Tu comprends? Mais c'est ce qu'on te dit. On te dit finalement, est-ce qu'on ne devient pas un peu comme ça avec le temps?
À force de laisser
et d'ignorer et de mettre sous le tapis. Ouais. À la fin, c'est où? Comment tu vas mettre sous le tapis? Donc il faut réfléchir, il faut méditer. Et surtout, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à regarder le problème droit dans les yeux. Dire, il y a un problème. Il y a un dicton en hébreu, je sais pas s'il existe en français aussi, il y a un dicton en hébreu qui dit « Yediya ta machala, chati refoua ». Connaître sa maladie et la moitié de la guérison. D'accord. Alors, en français, il y a un dicton qui dit « Faute avouée, à moitié pardonnée », mais bon, c'est sur une faute. Mais je sais pas si c'est un dicton pareil pour la médecine. C'est un peu la même chose. C'est que quand tu admets un problème,
c'est déjà la moitié de la solution du problème. Ouais.
Oui, c'est-à-dire que
tu règles le problème.
Ouais.
Tu peux te battre.
Parce que l'acceptation, déjà, c'est le fait
de... Non, mais les goïs, ils ne pensent pas à la même chose que tu viens de dire.
Ah.
Et les goïs disent que se confesser, c'est-à-dire dire...
C'est absoudre.
C'est déjà...
Un pardon.
Ah oui, non,
c'est absurde.
Chez nous, c'est la moitié. Chez nous.
Toi, tu dis, tu dois réparer l'histoire. Alors, si tu dois réparer l'histoire, tu dois.
Regarde, on voit ça, mais on pourrait s'arrêter beaucoup, comme c'est déjà l'heure. Je termine juste avec un exemple. Bien sûr. Alors, d'abord, je voulais dire, on va dédier le cours de ce soir pour deux choses. Tout d'abord, pour la refouah Shlema de Yoni Mahlouf Ben Yael. On va dédier aussi le cours de ce soir, Elou Nishmat, Araf Chaim Shmuel Ben Chana Yakot. C'est le beau-père de Monsieur Bispud, donc là il est Shloshim, donc je lui ai dit qu'on allait faire le cours, j'ai pas pu y aller parce que je fais le cours de Tania, mais je lui ai dit qu'on va dédier le cours ce soir, et Nishmat, oui aussi.
Shalom Ben David.
Donc voilà, je voudrais terminer avec un exemple. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui est malade, il sent pas bien. Il va chez le docteur. Le docteur, il lui donne un traitement. Non. Il y a des traitements qui durent 2 semaines. Il y a des traitements qui sont des traitements à vie. Et le docteur, il dit, monsieur, n'arrêtez pas le traitement.
Sinon,
le type, il prend le traitement 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Zap.
Il arrête. Progressivement. Il oublie une fois, après il oublie 2 fois, après il oublie 3 fois. Il arrête. Pourquoi il arrête?
Ça répond
parce qu'il se sent en bonne santé.
Voilà, exactement. C'est comme un médicament quand tu prends un médicament.
Donc quand il se sent en bonne santé, il dit mais je suis plus malade. Donc il n'admet pas qu'il est malade. Quand tu n'admets pas que tu es malade, tu ne peux pas guérir. Si tu n'admets pas que tu es malade, c'est la même façon pour la teshuva. Si tu n'admets pas qu'il y a un problème, tu ne peux pas le régler. Parce que dans ta tête, ce n'est pas un problème. Dans ta tête, c'est un pseudo-problème. Alors, pour un pseudo-problème, on a des pseudo-solutions. Pour un vrai problème, on a même des vraies solutions. Donc, regardons le problème vraiment, de façon sincère, de façon honnête, et de façon réelle. Réelle, il n'y a rien de mieux que le réalisme. Et regardez les choses clairement, et comme ça, vous êtes en train de trouver une solution. À méditer, on continue la prochaine session.
Alors Serge, tu vas